France Inter. Le masque et la plume. L'actualité de la scène est au sommaire du masque de ce jour avec Macbeth par la compagnie du Moonstrom Théâtre, l'hôtel du libre-échange de Feydeau dans une mise en scène de Stanislas Nordet, la parodie de Titanic en comédie musicale, la nouvelle création de Wajdi Mouawad, le cabaret théâtral de Valérie Lezor et le premier stand-up d'un nouveau venu qui s'appelle Umut Köker. Dans le public, nous accueillons aujourd'hui les élèves de la classe prépa commerce du lycée Michelet de Vanves. Vous êtes là ? Ils sont là et les membres du Scène Club du Pass Culture. Après la présentation du public, présentation des acteurs, j'ai nommé Laurent Goumard de Libération et de France Inter, Fabienne Pascot de Télérama, Pierre Lescolène de IO Gazette et du média en ligne Détective Sauvage et Sandrine Blanchard du journal Le Monde. Dans ce masque, il sera question de mariage, d'adultère, de transformisme et de Céline Dion. Bonjour, bienvenue, et comme on le dit avant un spectacle, merci d'éteindre vos portables. J'attendais vos critiques de cette pièce que j'ai beaucoup aimée, écrit Joël Guimier. La pièce dont il s'agit s'intitule « Le Prix ». Elle réunissait Pierre Arditi dans le rôle d'un lauréat du Nobel de chimie et Ludmila Mikhaël qui jouait sa collaboratrice. Pas une seule critique positive, déplore Joël, qui estime, ça te fait rire Pierre, qui estime que la subtilité de la relation entre les deux personnages vous a totalement échappé. Trop subtil pour vous peut-être. Pardon. Trop subtil pour vous peut-être, parce que cette auditrice avait mis un point d'interrogation quand même. Alain Gras poursuit le débat concernant cette même pièce en évoquant des dialogues barbants à force de répétition et une mise en scène inexistante. On en sort fatigué et irrité contre les deux larrons de la foire aux atomes. Fin de citation. Vous vous enthousiasmez pour les liaisons dangereuses qui continuent de se jouer à la Comédie des Champs-Élysées jusqu'à la fin du mois. Si Delphine Depardieu a remporté le Molière de la meilleure comédienne dans un spectacle privé, Michel Saint-Ferdinand regrette que les commentaires à l'encontre de son partenaire par certains critiques du masque soient négatifs. Dans le rôle de Valmont, Valentin de Carbonnière est remarquable, écrit Michel. Point barre. Enfin, Juliette nous écrit de « quelque part en Lozère », telle est l'adresse indiquée sur son mail. « Je n'écoute pas souvent le masque et la plume, mais j'ai laissé la radio continuer de parler alors que je profitais de ma couette plus longtemps que d'habitude. Vous avez alors mentionné la leçon de Wajdi Mouawad au Collège de France. J'ai éteint la radio et me suis précipitée pour aller l'écouter et la voir en ligne. Je me suis alors rappelé pourquoi j'aimais tant l'œuvre de cet homme et l'intelligence dont il fait preuve pour expliquer le monde à travers les mythes fondateurs de l'humanité. Je rappelle que vous pouvez voir la série de cours de Wajdi Mouawad au Collège de France gratuitement sur le site de l'institution ou sur YouTube. » On commence avec l'hôtel du libre-échange Vaudeville de Feydeau, mis en scène par Stanislas Nordet, qui s'était attelé à la puce à l'oreille avec succès il y a plus de 20 ans. Pour rappel, Monsieur Pinglet et Madame Paillardin projettent de surmonter les déceptions liées à leur mariage respectif en passant la nuit ensemble. Ils se donnent rendez-vous dans le décor rouge de l'hôtel du libre-échange, recommandé, je cite, aux gens mariés ensemble ou séparément, sécurité et discrétion garantie, mais il n'en sera rien. Monsieur Pinglet et Madame Paillardin y croiseront beaucoup de leurs connaissances, dont l'époux Dicelle. Les trois actes de la pièce se déroulent entre le salon des Pinglet et l'hôtel. Lorsque le rideau s'ouvre, les murs du salon Pinglet sont recouverts de mots en gros caractères. Ce sont les indications scéniques de Feydeau. Pour l'acte 2 à l'hôtel, la plupart des comédiens portent le même costume, une cape de fausse plume d'autruche, qui leur arrive en haut des cuisses et dévoile leurs jambes, l'autruche étant l'un des motifs de la mise en scène. Laurent.
Alors, c'est Stanislas Nordet qui s'attaque pour la deuxième fois, hein, tu l'as dit, Rebecca, à Feydeau. Et chaque fois, c'est manifestement en contrepoint de ce qu'il a pu mettre en scène auparavant. Moi, la précédente mise en scène, c'était le texte très fort d'écriture de soi de Christine Angot, Voyage dans l'Est.
Donc, était vraiment, là, rien à voir, effectivement.
Hein, rien à voir, qui était vraiment formidable. Et manifestement, cette pièce-là, ça serait donc tenter un contrepoint, une dimension comique pour alléger son propos. Le problème de la pièce, parce qu'il y a un problème dans la pièce, c'est que c'est un théâtre de parole, et ça il le signifie dès le début avec une scénographie qui met toutes les didascalies sur les parois, ce qui est assez beau, mais quelque chose qu'on a déjà vu dans son théâtre. Mais pour autant, il y a quelque chose qui, je sais pas, quand on monte aujourd'hui Feydeau, c'est qu'on a quelque chose à dire, j'imagine, en 2025, de ce que peut représenter ce qu'on appelle toujours cette critique sociale et bourgeoise de l'époque. Mais là, ce qui m'a gêné, c'est que quand on joue Feydeau, normalement, il faut être très sérieux. C'est un comique de situation, moins qu'un comique de personnage. Or là, les personnages en eux-mêmes sont déjà des spectacles. Par exemple, celui qui est joué par Cyril Botorel a une façon d'être sur scène, une gestuelle très précise, enfin, quelque chose que l'on regarde. Et plus on regarde le jeu des acteurs, moins on fait attention, je trouve, à ce qui se passe véritablement sur scène. Et mon problème, c'est qu'il y a pour moi deux comédies. Il y a la comédie des personnages en eux-mêmes qui viennent donc complètement anesthésier le texte formidable de Feydeau. Ce qui fait que, de mon côté, je n'ai ri mais que deux ou trois fois, alors que j'ai déjà vu cette pièce, notamment à la Comédie Française, et j'éclatais de rire tout le temps. Il y a quelque chose de peut-être trop intelligent dans la façon de vouloir travailler Feydeau par Stanislas Nordet. Ouais.
Sandrine, je trouve au contraire que cette pièce, moi, elle m'a réconciliée avec Feydeau, parce que bon, il dépoussière quand même vraiment Feydeau. Je trouve qu'il peut faire aimer Feydeau à une jeune génération qu'il ne connaîtrait pas.
Vraiment. Il joue pas Feydeau. Il fait entendre le texte.
Mais ah, mais
pas
le texte est formidable,
comme l'a dit Laurent.
Ah ben si, la situation, elle y est. Et puis, en fait, il a le parti pris du décor qui est pour se débarrasser du salon bourgeois et de tous les accessoires. Je trouve que c'est une formidable
idée. Très bonne idée.
Très bonne idée.
C'est moche.
Ah non, non.
Non, c'est une bonne
juste
idée.
Moche.
Mais c'est une idée.
Et moi, j'ai l'impression, enfin, que tout le monde se lâche. Enfin, que c'est une
théâtre, c'est
d'une grande
idées,
liberté.
Hein.
C'est inventif, c'est enlevé. Et franchement. Quand il y a cette tête d'autruche qui apparaît en énorme sur la scène, qui est en résonance avec ces costumes formidables qu'ils ont dans l'hôtel où ils sont tous des volatiles, je trouve que l'idée est formidable. Ah non, non, bah non.
Alors,
c'est original et c'est moderne.
On n'a pas encore entendu la voix de Pierre, le squelette.
Oui, il y a une tête d'autruche parce que les personnages de Feydeau font l'autruche.
Exactement.
Immense idée dramaturgique. Non, je pense qu'il y a beaucoup de contradictions dans ce spectacle. On sent que l'obsession de Nordet, je rejoins Laurent qui sortait d'un magnifique Christine Angot, est toujours pour la langue, en fait, et qu'au-delà de la comédie de personnages dont tu parlais, Laurent, il y a cette obsession pour la langue qui, pour moi, phagocyte et assèche tout le reste. C'est-à-dire, pourquoi pas, c'est une pièce sur la langue, c'est une pièce sur une langue bourgeoise qui se met à bégayer, mais je ne comprends pas au nom de quoi on refuse encore aujourd'hui le situationnel. Pour moi, c'est une posture de vieille avant-garde qui n'a plus de sens. Et puis, par ailleurs, je trouve que d'un point de vue comique et visuel, c'est avec Feydeau, on s'attend à une forme de créativité. Ici, il n'y a pas vraiment de créativité. Même le petit numéro de Raoul Fernandez, qui est assez drôle, mais en fait, il fait la
formidable.
Même chose pendant 3 minutes. Il n'a pas de vraie partition comique. Et je pense qu'il y a un contresens pour moi. C'est-à-dire qu'il veut jouer le carnaval de la langue, mais il pense que Feydeau n'est que de la mécanique. Or, Feydeau, à son époque, c'est quelqu'un qui essaye de revitaliser les ficelles du boulevard et à redonner de l'humanité, de l'intériorité, voire du tragique au personnage. Et là, on est dans un petit carillon.
Ils le sont, les hommes sont ridicules.
Ils sont ridicules, mais ils sont des figures, en fait. Et là, on a donc un petit carillon qui se croit un peu émancipé du théâtre bourgeois, mais pour moi, qui n'est que sa réplique désaccordée et détraquée.
Alors, quand même, pour précision, ce numéro de Raoul Fernandez dont tu parles, c'est un...
C'est le garçon d'hôtel.
C'est le garçon d'hôtel. Il est Raoul Fernandez, signe et costume, et interprète le rôle du garçon d'hôtel. Et à un moment du spectacle, il interprète Fly Me to the Moon en lip-sync.
Version SIA.
En version SIA. Et comme un karaoké muet. À toi, Fabienne.
Moi, je trouve que c'est pas assez travaillé, parce que même si c'était cantonné à la langue, ce qu'il fait toujours, mais ça, c'est une solution de facilité, parce que les situations sont bien plus intéressantes à jouer, parce que les situations, elles disent l'impuissance d'une société moribonde, impuissance sexuelle, impuissance dans le travail, impuissance dans tout, et c'est toujours chez Feydeau, il y a cette impuissance-là qui est quand même très intéressante à traiter, ça amène presque à Artaud dans la crue beauté du propos. Mais même la langue, il y a une beauté surréaliste de la langue qu'il ne mène pas à fond. Il y a une poésie.
Qu'il traduit au moins dans les costumes, en tout cas.
Mais oui, mais ces costumes, c'est absurde, ces personnages vêtus ras du cul avec des plumes d'autruche. Enfin, d'abord l'autruche, moi je croyais que c'était un dindon. Alors, vrai que je ne suis pas très forte en.
Mais un dindon de luxe, quand même. Hein.
Mais, non, mais c'est qu'est-ce que ça veut dire ? Ouais. Il essaye, il prend une idée comme ça en pensant que ça va faire la blague, mais non. Les personnages, les acteurs, mais jouent, à part Hélène Alexandridis qui fait la femme dont personne ne veut, à qui on dit qu'elle est moche et vieille pendant tout le spectacle, est superbe. J'ai bien beaucoup aimé Claude Duparfait aussi, mais Cyril Botorel, il est insupportable.
Ah non, il gueule, plus ça va, plus il se bonifie au fil de la pièce.
N'est pas joué, quoi.
Ah, mais il gueule pas. À la limite, pour le coup, moi, je trouve effectivement que toute la troupe n'est pas au diapason. Moi, j'ai eu beaucoup de mal avec la femme de chambre.
Mais la femme de chambre,
quel est ce parti pris de la faire gueuler dès le début ?
Eh ben, je suis bien d'accord. Il n'y a aucune raison. Que ça ne va pas.
Victoire, elle s'appelle en plus.
Voilà,
Victoire, comme si c'est le triomphe des domestiques sur les maîtres.
Sandrine, pour terminer.
Je trouve aussi qu'il y a la femme Maria Carriès qui est trop effacée.
Madame Paillardin.
Mais tu as ri.
Oui, j'ai ri. Et je trouve que, vraiment, j'inciterais la jeune génération à aller voir cette version de Fedot.
Ah, moi, ça la dégoûterait de Fedot.
Ah non, je crois pas. Je crois pas.
À vous de choisir. L'Hôtel du Libre-Échange, dans une mise en scène de Stanislas Nordet, c'est au Théâtre de l'Odéon jusqu'au 13 juin, avant une grande tournée dans toute la France, les 25 et 26 septembre à la Maison de la Culture de Grenoble, les 9, 10, 11 octobre à la scène nationale de Chalon-sur-Saône, suivront Lorient, Saint-Nazaire ou La Rochelle. Vous trouverez le détail des dates jusqu'en février 2026 sur le site du Masque. On va parler maintenant de Macbeth avec un K. Comme Punk, la pièce de Shakespeare, donc, librement adaptée par la compagnie alsacienne du Moonstrom Théâtre, compagnie lauréate de deux Molières l'année dernière. Les fondateurs du Moonstrom, Louis Arène et Lionel Lingelser, interprètent le couple sanguinaire, Macbeth et sa Lady, comme un monstre à deux têtes. Louis Arène assure la mise en scène et la conception des masques que portent les comédiens. Ces masques sont l'une des signatures du Moonstrom Théâtre. Ils couvrent le haut du visage et la tête, si bien que tous les personnages ont le crâne lisse. Le roi Duncan, qui sera assassiné par Macbeth, apparaît en claquettes chaussettes, avec une tringle à rideau pour sceptre. La robe en crinoline de Lady Macbeth est une tente cuir de chat. Et l'ensemble est en mouvement perpétuel. C'est une pyrotechnie avec beaucoup de giclées d'hémoglobine. On rit ou on pleure, voire les deux. On pense au Grand Guignol, au film d'horreur de Cyril B ou à Alien. Fabienne.
Ah, moi, j'ai beaucoup aimé ce spectacle. Je suis une fan du Moonstrom, de toute façon. Mais là, je trouve que visuellement, ils sont arrivés à une sorte de perfection visuelle qui peut-être se retourne un peu contre eux.
D'ailleurs. Exactement ça.
Voilà, parce que c'est presque trop beau. On s'arrête aux images, ils se complaisent eux-mêmes dans les images qu'ils fabriquent. Et donc, ça ralentit le spectacle, ça ôte un peu de l'humour qu'ils ont toujours, de la dérision, de cette folie qu'ils peuvent avoir. Mais reste que c'est quand même un spectacle. Macbeth, c'est une pièce dont on dit qu'elle porte toujours malheur. Là, ils ont écrit Macbeth avec un K. C'est punk, mais c'est aussi Kafka, bien entendu. Ils pensent à tout ça. Il y a force hémoglobine, il y a des images somptueuses, il y a un côté queer aussi qui est totalement jouissif. Mais moi, ce que j'ai apprécié, c'est le côté monstre qui est toujours dans tous leurs spectacles et que leur permet les masques, parce que les masques ont toujours permis au théâtre de tout montrer, les pires folies. Mais ce côté monstre qui nous appartient, qui est en nous, et ça, il le montre, l'horreur, il la montre avec joie. Et c'est ça qui est formidable, c'est qu'on sort de ce spectacle qui montre le mal, la guerre, le chaos, mais avec une force, une espèce de gaieté. Et c'est ça, pour moi, la qualité du Moonstrom.
Tu t'es réjoui, toi, Pierre ?
Oui, voilà. Je comprends pas où est la joie, mais...
Voilà. Dans la vitalité qu'ils déploient, même dans le jeu, dans leur jeu.
Oui, ben voilà un théâtre qui rassemble la jeune génération. Moi aussi, j'ai vu la plupart des spectacles du Moonstrom. Et j'avoue que j'en ai préféré d'autres parce qu'il y a des spectacles dans lesquels vraiment on sent que le texte qu'ils montent, par exemple dans ce qu'ils avaient fait avec Molière, vraiment va repousser un peu leur esthétique. Là, j'ai trouvé que leur esthétique est très singulière. Il faut vraiment que toutes les personnes qui ne la connaissent pas aillent la découvrir. Je trouve qu'elle s'impose par rapport à l'œuvre et que les images se suffisent un peu à elles-mêmes et que les images sont un peu lisses du point de vue de leur signification parfois. Je trouve qu'elles montrent un peu les muscles. Elles n'ont pas beaucoup de sens.
Quand même.
Voilà.
C'est cinématographique.
Par ailleurs, il y a deux choses qui m'ont gêner le fait que le spectacle juxtapose un peu les registres de la pièce. C'est-à-dire, on commence par la guerre, on va ensuite dans la farce, et enfin, on arrive dans la tragédie, alors que Shakespeare arrivait à entremêler tout ça. Et par ailleurs, je trouve que la place des sorcières, qui était vraiment, qui est centrale dans la pièce, le fait de l'avoir décentralisée, les sorcières sont un peu absentes de la mise en scène, je trouve que c'est dommage parce que la dimension métaphysique qui est amenée par les sorcières donne une empathie pour comprendre et entrer dans l'intériorité des Macbeth. Moi, je suis restée très à l'écart en fait, de ce que je voyais sur le plateau. Et je trouve que c'est aussi dommage, finalement, de revenir à cette vision un peu grotesque et cynique des systèmes de pouvoir qu'on a déjà beaucoup vus, alors que Macbeth est une pièce très immorale et je trouve qu'on n'a pas accès à cette immoralité-là.
En tout cas, il y a des images qu'on garde en sortant du théâtre.
Oui, mais c'est le problème, c'est-à-dire qu'il n'y a que des images. Et ce qui est très, très beau, d'ailleurs, le fait qu'il y ait des images, c'est absolument
c'est
magnifique. Mais c'est une série d'images. D'ailleurs, au bout d'un moment, je ne regardais que ça. Tu dis que tu t'es mis à l'écart un petit peu du spectacle. Moi, j'ai été mis à l'écart du spectacle par le texte. C'est-à-dire que le texte est crié absolument tout le temps, il est hurlé. Donc, au bout d'un moment,
décidément,
on n'en peut plus.
Moins que Fédo.
Oui, non. De toute façon,
non.
Et ce que l'on garde de la pièce, en effet, c'est véritablement les images qui sont déployées. Et c'est intéressant, Rebecca, dans ta présentation, tu as parlé des costumes.
Oui.
Et encore une fois, et on le verra tout à l'heure avec Valérie Lezor, il y a cette dimension des costumes qui prend vraiment une place spectaculaire. On l'avait vu déjà, par exemple, avec le Claudel à la Comédie Française.
Le soulier de satin.
Voilà. Il y a un retour manifestement du spectaculaire dans les costumes, mais qui là devient ce que l'on regarde avant tout, avant d'écouter véritablement la pièce.
Sandrine ?
Mais c'est surtout qu'en fait, je trouve qu'on nous raconte tout le temps la même chose, c'est-à-dire que c'est spectaculaire, mais de façon un peu vaine. On nous dit quoi que
des spectacles de cette qualité de spectaculaire, arrêtons quand même.
Non, mais ça te raconte toujours la même chose que la folie humaine est sans limite. Il y a vraiment tout de trop. Il y a énormément d'hémoglobines, de lasers, de fumigènes.
Mais Macbeth, c'est pas une pièce si subtile que ça.
Pour nous dire quoi à la fin, quoi. Et en plus, je trouve que le parti pris de faire un couple Macbeth et Lady Macbeth, qui sont des espèces de clones qui se ressemblent, c'est pas du tout utilisé, en fait. On ne sait pas pourquoi ils ont fait ce parti pris-là.
Bah, c'est un monstre à deux têtes, en fait.
Et puis tout y est, à un moment donné, la nudité totale. Très franchement, j'ai aimé le début, la manière dont ils mettent en scène la fureur de la guerre, c'était très impressionnant, et la fin, avec le bouffon.
L'image finale est formidable.
L'image finale est formidable. J'avais l'impression de tourner en rond. Voilà.
Et ça dure 2 heures. Macbeth par le Moonstrom Théâtre sera sur la scène de la Filature à Mulhouse les 22 et 23 mai et du 10 au 13 juin au Théâtre du Nord à Lille. Changement de registre total avec Paradoxe. Premier spectacle d'un nouveau nom du stand-up, il s'agit d'Umut Köker. Le premier Paradoxe, et je ne vais pas les énoncer tous, est le suivant, comment faire de l'humour un métier quand on est taillé comme un colosse avec une barbe noire épaisse. Au micro d'une voix posée et douce, Umut Köker fait ce constat. Lorsque ceux qui lui ressemblent apparaissent à la télévision, c'est rarement pour les bonnes raisons. Dans ce spectacle autobiographique, Umut Köker raconte son enfance de fils d'immigrés kurdes et turcs. Il s'amuse de ses origines, des clichés liés à son apparence comme à son patronyme, que ce soit à travers l'expérience de son premier entretien d'embauche ou avec le récit d'une balade en pédalo avec son duo de cousins. Le tout dans la France des années 1990 à 2020. Le spectacle dure 1h10 ici et il est coécrit et mis en scène par Walidia. Pierre.
Mais moi, j'ai aimé ce spectacle qui prouve vraiment, bon, c'est un cliché de dire ça, mais que l'humour est vraiment un puissant destructeur de clichés. Et puis surtout, j'ai aimé que pour une fois, l'humoriste n'essaye pas de nous plaire, de nous alpaguer, qu'il reste dans un espace un peu retranché avec cette voix, avec ce phrasé qui est chiadé, qui est modéré. Et au fond, cette forme d'humour, elle va de pair, je trouve, très bien avec le propos, puisque l'humoriste veut nous démontrer sa singularité, le fait qu'il résiste à tous les clichés, à tous les cadres, et c'est nous qui allons vers lui, enfin moi j'ai eu cette sensation en tout cas, plutôt que lui qui vient vers nous et qui fait des contorsions humoristiques. Après, il est un peu programmatique, c'est-à-dire qu'on voit et on entend ce qu'on s'attend un peu à entendre, et il ne déraille pas trop. Peut-être que j'aurais aimé qu'il déraille un peu plus. Alors il y a quelques moments burlesques, notamment le moment très drôle sur les toilettes turques, mais il y a aussi quelques paradoxes, notamment le fait qu'il veut destituer le cliché de l'homme barbu un peu inquiétant, mais qu'il reconduit quand même beaucoup de fois ce cliché comme moteur comique.
Le titre du spectacle, c'est les paradoxes,
absolument,
hein, justement.
Absolument, c'est pour ça que je le dis.
Donc c'est une promesse.
Voilà, donc je dirais que la scène ne déborde jamais de la mission éthique qu'elle s'est fixée, mais c'est déjà pas mal parce qu'elle est réussie.
Laurent ?
Oui, moi, je suis sur la même longueur d'onde. Généralement, je n'aime pas tellement ce format du one-man show ou du stand-up. Et là, j'ai trouvé...
Voilà, c'est du stand-up. Hein,
c'est du stand-up, voilà. Et là, j'ai trouvé que c'était vraiment plutôt bien tenu. Et j'ai beaucoup apprécié, justement, la réserve de celui qui est sur scène. C'est-à-dire, il ne bouge presque pas. Avec une voix très modérée, une sorte de Blanche Gardin, enfin, c'est une esthétique de Blanche Gardin.
La référence ça, c'est quelque de chose. Ouais,
là, il y a au moins quelque chose qui se fait et pas parcourir ou avoir des tics de langage ou des tics de représentation qu'on a pu voir chez les autres. Non, j'ai adoré le postulat de départ du style. J'ai un faciès qui ne permet pas de laisser de longs silences. Ouais. C'est-à-dire que c'est vrai, vous le mettez dans une place,
dans un wagon de métro.
Dans un wagon de métro, bouge pas. Il est énorme. Enfin, il est plutôt bien baraqué avec une barbe comme ça. Il a au mieux un physique de livreur d'Uber Eats, c'est ce qu'il raconte. Dit, au pire, celui d'un terroriste. C'est vraiment ça. Il a une gueule d'arabe, alors qu'il n'est pas arabe.
Il
est turc
et il en rit.
Ouais, c'est très bien tourné. Après, le truc sur on va développer les toilettes turques et tout. Là, j'ai commencé à baisser un peu pavillon, kebab, toilettes turques. Bon, ça m'a moins intéressé. Mais quand même, c'était plutôt bien tenu. Non, j'ai trouvé que c'était pas mal. J'ai adoré ce qu'il a dit aussi sur le conflit turc et kurde.
Ah oui,
il a dit que ça n'intéressait pas les Français et que c'était donc un conflit Lidl. Formidable.
Ouais. Moi, j'adore. En fait, il dégage une forme de sérénité.
C'est un mal dominant quand même. Hein.
Voilà, j'ai un mal dominant. Ah, dominant, pas tant que ça, non.
Ceci était une intervention de Fabienne
Pascaux. Moi, j'aime sa sérénité, son espèce de nonchalance mélangée à une forme de détermination
et
quand
de
même
douceur,
dans ce qu'il
aussi.
Dit.
Sérénité avec un sujet qui ne l'est pas.
Qui ne l'est pas, c'est ça.
Identité.
Et je trouve que, en fait, la force de ce genre de stand-up, quand c'est réussi, que ça aborde des sujets comme ça, c'est que ça met des petites graines et que ça. Je trouve qu'il y a une utilité à ce genre de spectacle. Je sais pas si je le... Et ouais. Puis, il s'appuie sur des situations, sur des anecdotes. Enfin, moi, vraiment, j'ai éclaté de rire. Et pour voir beaucoup de stand-up, j'éclate pas toujours autant de rire.
Pareil. Fabienne ?
Moi, j'ai trouvé ça moins sensationnel que vous le dites, notamment la dernière partie sur les histoires de poils dans les relations sexuelles. Et je me rase et tu te rases, et je me rase et tu te rases.
C'est la vie,
c'est assez
Fabienne,
fin pour le coup.
C'est
la vie, mais enfin, c'est un peu longuet quand même. Un peu longuet et un peu vulgaire.
J'ai complètement oublié ce passage, moi.
Ah, bah pourtant, c'est long. C'est celui que Fabienne a retenu.
Mais oui. Celui d'un mal dominant.
Voilà.
Qui aurait pu m'exciter.
Mais non, justement, mais qui ne veut pas de manière. Il ne le fait pas de manière dominante.
Paradoxe d'Umut Köker, c'est tous les jeudis au Métropole à Paris jusqu'au 5 juin. Umut Köker jouera ensuite à Rennes le 21 mai, à Toulon le 24, à Rouen le 28, etc. Et il reprendra son spectacle à Paris en septembre, à nouveau au Métropole. Journée de noces chez les Cro-Magnons, c'est le titre de la pièce suivante écrite et mise en scène par Wajdi Mouawad. Ça se passe au Liban, dans un appartement qui ressemble à un caisson. Le sol est oblique, donc les meubles de guingois. On se tient éloigné des fenêtres et on entre dans la cuisine à quatre pattes pour éviter les tirs. Nous sommes à Beyrouth au milieu des années 70, c'est la guerre. Malgré les bombes et les coupures d'électricité, on organise les noces de la fille aînée de la famille. Elle s'endort tout le temps et sans prévenir, mais comme le dit sa mère, la narcolepsie est un don de Dieu dans un pays en guerre. Il y a aussi le fils, le père et la voisine qui vient prêter main forte pour tuer l'agneau avec une paire de ciseaux. Il y aura donc des noces coûte que coûte, même si le futur époux n'existe pas. Ce fiancé, on l'attend comme Godot. Journée de noces chez les Cro-Magnons est la première pièce écrite par Wajdi Mouawad il y a 34 ans. Il n'a pas cessé de remanier le texte. Et la création qui avait commencé à Beyrouth l'année dernière s'est arrêtée en plein vol en raison des menaces contre le théâtre qui accueillait la troupe. Et ce texte est joué aujourd'hui en libanais à la Colline, en libanais surtitré. Et ça commence comme une comédie italienne. Laurent.
Ah oui, ça commence comme une comédie italienne, donc c'est très méditerranéen, c'est-à-dire tout le monde gueule à qui mieux dans cette famille. La
avec
mère traite son fils de tu es sorti de mon cul toutes les cinq minutes. Bon, donc il y a cette dimension très méditerranéenne. Pensez que c'est la première pièce de Wajdi Mouawad il y a 34 ans. Enfin, franchement, c'est déjà bingo, quoi. C'est-à-dire que l'histoire, moi, m'a absolument passionné, c'est comment la guerre rend absolument fou. C'est-à-dire que déjà, il faut comprendre que la pièce est pleine de bruit et de fureur, selon l'expression consacrée. C'est-à-dire que tout le temps, il y a les bombardements qui sont omniprésents avec les personnages qui tentent d'identifier ça vient de telle arme, ça vient de telle arme et tout ça. Donc la guerre rend complètement fou.
Cette bande-son, elle est très très bien faite.
Ouais. Ah mais ouais. C'est formidable.
Parce qu'elle est hyper juste, elle ne gêne pas le texte.
Et donc, c'est une famille qui est enfermée dans sa maison, parce que d'un côté, il y a les snipers, donc ils ne peuvent pas aller du côté de la cuisine. De l'autre côté du salon, il y a une peuvent pas sortir parce qu'il y a la guerre. Bref, c'est une famille qui devient folle d'elle-même, et le seul moyen de s'en sortir, à tous les sens du terme, c'est de créer une fiction, c'est-à-dire un mariage avec quelqu'un qui n'existe pas. Et ça, l'idée que la fiction soit le résultat de la folie de la guerre ou le moyen de s'en sortir, j'ai trouvé ça absolument prodigieux. Les acteurs sont remarquables. Le seul bémol, parce qu'il y a toujours un bémol, quand il a écrit cette pièce, il était au Canada. Et dans la pièce, il y a une pièce dans la pièce, puisque l'on voit celui qui est en train d'écrire la pièce, qui est en train de se jouer devant
lui. On le voit lui.
Voilà, on le voit lui. Il est pris en charge par un autre acteur. Et je ne pense pas que ça apporte grand-chose à la pièce, le fait que de penser que c'était un exilé. Alors si, parce que ça crée une autre fiction, c'est-à-dire lui-même, la guerre qu'il raconte, il ne la vit pas, donc c'est une fiction qu'il raconte depuis le Canada. Je pense que c'est le seul élément dramaturgique qui n'est pas véritablement indispensable, mais c'est vraiment une réussite.
Pierre ?
Ah, c'est pas le seul pour moi.
Non, c'est pas, la seule réussite ou
c'est pas, je trouve que c'est une pièce de jeunesse qui est devenue une antiquité, que j'ai eu beaucoup de mal à regarder. Alors en même temps, il y a une forme d'humilité dans cette écriture et une humilité de la remettre au théâtre aujourd'hui, parce que c'est une pièce qui est moins aboutie, qui est plus intime que ces grandes fresques lyriques, un peu trop messianiques pour moi, de Mouawad qu'on a vu récemment. Mais je me demande si c'est de l'humilité ou de l'aveuglement, parce que je trouve vraiment qu'il y a des choses qui sont rances, qui sont rébarbatives dans cette pièce. Alors désolé, je vais sortir le tiroir des rapports genrés, notamment le frère et la sœur. Alors la sœur, c'est l'ingénue qui porte un regard un petit peu hésitant sur la guerre. C'est un conte.
Elle s'endort dès que les bombardements
sont pris. Le frère, il a tout compris dès l'enfance, il a affronté la violence du monde, il a vécu des traumatismes. Et le père tape sur la mère, mais deux secondes après, elle est contente de lui sauter dans les bras. Non, vraiment, je trouve moi que c'est une pièce impossible.
C'est la pièce qui est culture qui n'est pas la nôtre. Il parle du Liban, donc c'est pas, on peut pas le juger.
Il aurait pu problématiser.
Ça se passe pas en 2020. La France et l'Occident.
Ça se passe pas en 2020 non plus.
Hein. Non, mais au-delà de ça, cette mère de famille a un tempérament
incroyable,
très forte.
Et Agda Sabra, elle est incroyable en mère. Et je pense qu'il faut préciser, parce qu'effectivement, c'est en libanais sous-titré, mais moi, ce que j'ai trouvé remarquable...
C'est la mise en scène des sous-titres.
Exactement. C'est vraiment hyper bien fait, c'est-à-dire que les sous-titres suivent les protagonistes, et donc il y a une fluidité, ça se fait tout seul. On lit vraiment tout seul les sous-titres, et il ne faut pas que ça soit un frein pour les gens, le fait que ce soit en libanais. Au contraire.
Fluidité aussi dans les tons et dans les différents registres, de la comédie au drame, c'est burlesque et tragique ensuite. Donc, Fabienne ?
Oui, ça passe de la tragédie au burlesque, au grotesque. Et moi, ce que j'ai trouvé absolument formidable, c'est que, comme vous le disiez, c'est en arabe, enfin en libanais. Et donc, on redécouvre la langue de Wajdi Mouawad, qu'on a toujours entendue en français. Mais Wajdi Mouawad se revendique complètement libanais, lui. Et on entend sa langue, qui est beaucoup plus charnue, beaucoup plus gourmande, beaucoup plus sexuelle. Il est grossier. Et c'est une langue qu'on redécouvre dans son rythme, dans sa musicalité, qu'on n'avait jamais entendu comme ça en France.
Et surtout, et ça nous permet d'être formidable. Vraiment dans le sujet, dans ce qu'il raconte. Quoi.
Bien sûr.
Et il faut quand même saluer la troupe, les comédiens, parce que celle qui fait la mère, elle est formidable.
Aïda Sabra.
L'adolescent là, qui est sur les nerfs.
Ali Arcus.
Voilà, qui parle de ce pays à la con.
Et puis, il y a déjà en germe, dans cette pièce qu'il a écrite à 23 ans, puisqu'il avait 23 ans, tous ces thèmes futurs, les relations compliquées parents-enfants, les vivants et les morts qui sont constamment là, l'invitro la cuisine, le sexe. En germe, c'est la matrice de tout son théâtre. C'est pour ça que c'est passionnant aussi.
Journée de noces chez les Cro-Magnon de Wajdi Mouawad. C'est au Théâtre de la Colline à Paris jusqu'au 22 juin. Et la dernière version du texte est disponible chez Actes Sud Papier. Et maintenant, rien sur Terre ne peut les séparer, sauf Céline Dion. Tel est le sous-titre de la comédie musicale intitulée Titanic, qui s'écrit donc ici Q-U-E. Il s'agit d'une parodie du film de James Cameron qui fut joué à New York, Londres, Montréal ou Sydney. Titanic arrive au Lido 2 à Paris, mené par une troupe anglaise excellente vocalement. Ça commence dans un musée du Titanic quand soudain surgit Céline Dion, dont la comédienne et chanteuse Astrid Harris imite non seulement la voix, mais aussi la gestuelle scénique, avec dodelinement de tête et poings levés. Et Céline Dion l'affirme sur le Titanic,
elle y était, et elle va vous en donner sa version, ponctuée par plusieurs de ses chansons. C'est queer, avec un rythme d'enfer, et en anglais sous-titré. En lieu et place des décors somptueux de la super-production de James Cameron, pas de recours à de la vidéo pour pallier un manque de budget, mais de simples accessoires comme un tissu bleu pailleté qui suffit à figurer l'océan et ses dangers. Mon tout est mis en scène par Ty Blue et coécrit avec Marla Mindel et Constantine Rousouli. Fabienne.
Oh, moi, j'ai beaucoup aimé ce spectacle. C'est une plongée dans la culture queer qui est délicieuse, dans ce que peut avoir de fou le goût homosexuel, ses excentricités, ses délires, ses audaces. La troupe est magnifique. C'est une satire du film, comme tu le disais, mais c'est aussi une satire de la comédie musicale qui a été créée en 97 et... Il se moque de tout dans ce spectacle. Les acteurs sont éblouissants. Ceux qui jouent en travesti sont étourdissants. La mère de Rose, qui est un homme avec un petit chapeau, avec deux oiseaux. Iceberg salope. Iceberg salope, qui est une sorte de Tina Turner, qui a causé l'accident du Titanic, bien entendu, et que vient exorciser Céline Dion, qui sauvera tout le monde par ses chansons. Il y a des moments, il y a des délires, c'est formidable.
Pierre. Ça n'a aucun sens. Mais c'est peut-être pour ça que c'est super. Moi, j'ai
pourtant
eu l'impression
que. C'est queer, Pierre, vous devez
bien sûr.
Mais
c'est pas incompatible avec. Je n'ai pas aimé le spectacle, mais c'est pas forcément incompatible avec.
Moi non plus, j'ai pas aimé le spectacle.
Pierre. Pense que c'est un spectacle qu'on sent qui vient des États-Unis, d'une certaine culture queer, d'un certain contexte. Et je trouve que moi, je n'ai pas compris ce spectacle. Cela dit, j'aime beaucoup le kitsch.
Il faut pas comprendre.
Et là, je trouve qu'on est vraiment dans le kitsch. Parce que
c'est super kitsch. C'est comme l'affiche.
Vraiment primaire du terme, c'est-à-dire la rencontre de deux supports de représentation qui ne devraient jamais se rencontrer, le support de l'histoire de Titanic et le support musical, les chansons de Céline Dion. Sauf que pour moi, tout ça est improbable, mais ne l'est pas vraiment dans son traitement. C'est-à-dire que je trouve qu'il y a des gags qui sont quand même lourds, qui sont éculés. Et puis alors la construction qui est systématique, c'est le discours de Céline, la chanson, la scénette théâtrale. Bon, tout ça est un petit peu rébarbatif. Et pour moi, voilà, c'est à l'image de ce gros chœur qui vient de chez Claire's, qui est au milieu de la scène. C'est une petite attraction cheap et qui, je le redis, pour moi, n'a eu aucun sens.
Cela dit, il y a beaucoup de références qui peuvent échapper. Hein.
Ouais, ça. Alors,
les dialogues vont à tout vitesse.
C'est dans le film. J'ai pas eu toutes les références.
C'est un diamant. Et pour moi, c'est un spectacle de croisière.
Vous savez plus vous amuser.
Excuse-moi, Fabienne.
Pitié.
Dès que je peux m'amuser, je saute sur l'occasion. Non. C'est vraiment. Enfin, moi, ça m'a laissé de.
Mais on
aimé
l'iceberg.
C'est hystérisant. Alors, à part l'iceberg, c'est assez drôle. Mais moi, je suis complètement restée à quai, quoi. Ça m'a pas amusée. J'ai quasiment jamais ri. Alors,
j'ai
effectivement,
plus
la comédienne qui s'embrasse.
C'est Oumout.
C'est Oumout.
Oumout Coquer. Merci. Sandrine.
Non, mais c'est pas complètement un naufrage non plus parce que.
Tu vas filer toutes les métaphores.
Ouais, j'ai toutes les faire. Ça m'a laissé de glace aussi, j'avais.
Ah, parfait. Voilà.
Bravo. Non, parce que effectivement, Astrid Harris, elle est très bien en Céline Dion. Elle lui ressemble absolument comme deux gouttes d'eau.
Oui, c'est
et
troublant.
Elle chante très bien. Bon, moi, je suis pas une fan du répertoire de Céline Dion, donc ça, vous direz, ça n'aide pas non plus. Mais en fait, j'ai l'impression qu'on pense venir s'encanailler, et en fait, je trouve ça ringard. C'est faussement extravagant.
Je pensais t'encanailler en allant au Lido voir un truc sur Titanic.
Bah, je sais pas. Chacun Titanic, IQE. Voilà quoi, pourquoi pas.
D'accord.
Mais vraiment, moi ça m'a. Non, il y a deux bons moments, l'aubergine et puis le final.
Ah, l'aubergine, j'ai trouvé ça un peu vulgos, moi.
Ah bah moi ça m'a fait marrer, tu vois.
Oui, l'aubergine,
voilà, comme quoi, tout le monde ne rit pas des mêmes allusions.
J'ai eu le sentiment quand même que le public était coupé en deux. C'est-à-dire que d'un côté, il y avait les fans de Céline Dion qui étaient à fond, et puis d'autres qui étaient, je pense, dans le même état que moi, à se dire, mais où suis-je? Qu'est-ce que je regarde?
Es-tu fan de Céline Dion, Laurent?
Il y avait d'un côté les fans de Céline Dion et de l'autre côté les fans de Françoise Hardy, c'est-à-dire moi, qui ai beaucoup de mal avec les chanteuses à voix, même si je peux apprécier le répertoire de Céline Dion, d'ailleurs.
Alors, en tant que fan de Françoise Hardy, qu'est-ce que tu as pensé du spectacle?
Écoute...
c'est presque bah,
on
impossible
y va pas quand on aime Françoise Hardy.
Non, mais j'ai pas trouvé. En fait, j'ai pas trouvé ça mauvais. J'ai trouvé que ça fonctionnait. Cet humour queer m'a plutôt réjoui sur certains passages. Par exemple, moi, le seul moment qui m'a fait vraiment rire, Céline Dion s'arrête puis elle s'interroge sur la carrière de Jennifer Lopez. Elle dit Jennifer Lopez, mais c'est quoi en fait? Elle fait quoi? Elle est chanteuse ou elle est parfumeuse? Et là, je crois que j'étais le seul d'ailleurs, j'ai ri comme un dément par rapport à cette blague-là. Non, je trouve que c'est très bien chanté, que c'est très bien joué, il y a un allant. Il ne faut pas bouder son plaisir, mais c'est vrai que ça me paraît... oui, c'est un spectacle kitsch. Moi, j'aime le kitsch. Mais c'est vrai que je suis resté au bout d'un moment, un peu comme toi, un peu hacké, mais ce n'était pas désagréable. La croisière s'amuse, ça me va.
Titanic, rien ne pourra les séparer sauf Céline Dion. C'est au Lido à Paris jusqu'au 22 juin. Et on termine avec Que d'espoir, point d'exclamation, cabaret théâtral de Valérie Lesort, tandis que sa commise en scène du bourgeois gentilhomme avec Christian Eck est reprise en ce moment à la Comédie Française. Pour Que d'espoir, Valérie Lesort a réalisé un montage de textes et de chansons de l'auteur israélien Hanok Levin. Le spectacle est composé d'une douzaine de sketchs où l'on croise un homme convaincu de n'attirer l'attention que le temps d'une minute trente, une femme de ménage sans filtre quant à son transit, ou encore un client d'hôtel tellement seul qu'il demande à la réceptionniste qui viendra le border le soir. Que d'espoir, donc. Le tout est scandé de chansons interprétées par Charlie Voudou, vedette du cabaret de Madame Arthur, Hugo Bardin, comédien et par ailleurs drag queen sous le nom de Paloma, fait partie d'une distribution qui réunit David Mijot, Valérie Lesort, en alternance avec Céline Milia Baumgartner. Je précise que les personnages ont tous des corps augmentés de prothèses en mousse, perruques de couleurs vives ou lèvres en plastique, comme les ajouts qu'on greffe à Monsieur Patate. Les connaisseurs du jeu sauront. Pierre.
Ben, je trouve qu'Hanok Levin est un auteur très difficile à monter parce que si on va dans le réalisme, on perd l'étrangeté de son écriture. Si on va au contraire dans le cartoon, on perd l'humanité, l'authenticité. Et je trouve que Valérie Lesort, elle a réussi à trouver un équilibre, elle a réussi à trouver des figures qui sont quand même des figures vivantes. Et là, je trouve que contrairement au Moonstrom, on a quand même un auteur qui trouve quand même une esthétique relativement juste par rapport à ce qu'il développe. Cela dit, moi, je trouve qu'il y a beaucoup de sketchs qui sont assez datés. Les solos, ça passe parce que c'est un peu adressé au public, mais alors les scènes à plusieurs, je trouve qu'elles ont du mal à se théâtraliser. On sent que les comédiens et comédiennes les expédient même un peu parfois, parce que c'est sorte d'allégorie de la folie douce et cruelle de l'existence. Et puis pour moi, il y a quelque chose qui me gêne aussi dans l'expression et dans le concept même de cabaret théâtral, c'est-à-dire, on n'a ni le présent partagé du cabaret et on n'a ni la puissance dramaturgique d'un spectacle de théâtre. Et je pense que les sketchs d'Hanok Levin, certes, sont du cabaret, mais qu'aujourd'hui, au cabaret, on attend une sorte de sublimation d'un désespoir collectif. Et là, on a des sketchs qui sont finalement très individualistes sur la peur de la vieillesse, la peur de la mort, l'insensé de l'existence. Tout ça est universel, mais tout ça n'a rien de très contemporain pour faire encore cabaret pour moi aujourd'hui.
Laurent.
Ce qui m'a intéressé, c'est la dimension visuelle. Je trouve que Valérie Lesort a vraiment développe une dimension visuelle vraiment magnifique. J'ai adoré tout ce que tu as raconté sur les perruques en plastique, le corps augmenté, les gros seins. Tout ça m'a particulièrement intéressé, le stylisme aussi. Donc j'étais très sensible à ça. Et quand je dis ça, ça veut dire que je passe à côté de ce qui se dit sur scène. C'est-à-dire que là encore, je regarde un spectacle d'un point de vue plastique, esthétique, mais j'écoute moins ce qui se passe. C'est-à-dire que il y a cette dimension visuelle qui vient phagocyter le message, s'il y avait un message du texte. J'ai adoré le début, la présentation, quand le personnage arrive et qu'il dit qui il est, c'est-à-dire un être falot avec une voix de merde, et qu'en fin de compte, il nous ressemble. J'ai trouvé ça vraiment très fort et je me suis dit, waouh, il y a quand même la promesse, que d'espoir, point d'exclamation. Ensuite, non, ça ne tient pas sa promesse. Il y a l'espoir s'arrête assez rapidement, et notamment avec un sketch qui revient avec une personnage donc, de la drag queen, là, de la femme de ménage.
Avec son caddie.
Avec son caddie, et puis surtout avec sa culotte souillée. Là, quand on en arrive à un truc pipi-caca qui doit être, en effet, travaillé, j'imagine, par l'auteur initial, mais je ne sais pas, là, ça fonctionne moins bien. Moi, ça m'emmerde au vrai sens du terme, en fait.
Je suis d'accord avec toi, Laurent, sur le fait qu'en fait, on garde en mémoire que l'aspect visuel du spectacle. Ces personnages, ils ne m'ont ni ému, ni touché, ni vraiment fait rire.
Alors, ils t'ont fait quoi ?
Ben justement, pas grand-chose. Alors c'est un espèce de mélange entre Monsieur Patate, les Playmobil, et puis le monde de Barbie Kent à qui on aurait donné un grand coup de pied. Même les intermèdes musicaux, je trouve qu'ils n'arrivent pas en fait à lier tout ça. Moi, j'y étais le soir de la deuxième représentation. Je trouvais qu'il y avait un énorme problème de rythme. Donc, voilà, je garde en mémoire ben, ces seins énormes, les bouches énormes, ou alors les seins en œuf au plat. Mais so what, quoi.
Fabienne,
elle a quand même un univers, Valérie Le Sœur, qui ne demande qu'à se développer, parce qu'elle a longtemps été collaborée avec Christian Eck, qui est son compagnon dans la vie. Et on n'a pas assez parlé d'elle. Hein, quand on est la compagne d'un grand metteur en scène, Macha Makeyev a eu les mêmes problèmes avec Jérôme Deschamps. Mais là, elle est en train de prendre son essor. Là, moi, je mets la faute sur Hanok Levin, qui n'est pas...
Sur l'auteur, donc.
Sur l'auteur, oui. Qui, les enfin, sketchs, elle les a mal choisis. Ouais. Pardon ?
Sur ses petits sketchs.
Oui, sur ses petits sketchs qu'elle n'a pas trop bien choisis. Elle a fait confiance à Hanok Levin, qui est par ailleurs un dramaturge israélien qui est mort maintenant, mais qui a une œuvre considérable et tout à fait formidable. Alors, ces sketchs-là, moi, je les trouve petits, médiocres, mal foutus. Mais tout ce qu'elle a fait autour, et même son travail de mise en scène et d'une direction d'acteur, et je trouve très bien.
Que d'espoir, cabaret théâtral de Valérie Le Sœur, c'est au théâtre de l'Atelier jusqu'au 13 juillet. On termine avec vos coups de cœur et on commence avec toi, Sandrine.
Oui, c'est Victor Kirillov. Son spectacle s'appelle « Maintenant, je n'écrirai plus qu'en français ». C'est au théâtre de Belleville jusqu'à fin juin. Victor Kirillov, c'est un jeune comédien ukrainien qui a 23 ans et qui fait le récit de son exil, le sien, parce que le 24 février 2022, quand la Russie a envahi l'Ukraine, lui, il était à Moscou, où il réalisait son rêve. Il était au Gitis, une des plus grandes écoles de théâtre, et le lendemain, il devait jouer la Mouette de Tchekhov. Et le matin du 24 février, sa mère l'appelle en lui disant « On bombarde Odessa, surtout ne reviens pas ». Et donc, c'est tout son déchirement entre que faire, fuir ou retourner au pays pour défendre sa patrie. Et il va mêler son histoire à la grande histoire, avec l'aide de cartes historiques, pour essayer lui-même de comprendre comment il en est arrivé là. Donc voilà, c'est comment, bien évidemment, la guerre bouleverse énormément de destins, dont le sien. Il a une vraie présence sur scène, c'est très bien écrit et c'est profond, parce qu'on se met tous à sa place et on se demande, mais qu'est-ce qu'on aurait fait, nous ?
C'est au Théâtre de Belleville, oui, à Paris, jusqu'au 29 juin. Pierre ?
Moi, je vous conseille le nouveau spectacle de Caroline Guéla Nguyen, la directrice du Théâtre National de Strasbourg, qui s'appelle Valentina. Alors, c'est une sorte de conte cardiaque, pour reprendre son expression bien aimée, qui met en scène une petite fille qui part avec sa mère roumaine, hein, en France, pour espérer soigner le cœur de cette mère. Donc, c'est un coup de cœur vraiment au sens fort du terme. C'est un spectacle très émouvant, qui tricote ensemble beaucoup de problématiques, et notamment celle de la langue. Qu'est-ce qui se passe quand on apprend une langue nouvelle ? Est-ce que c'est un facteur d'émancipation ? Ou est-ce que c'est aussi un facteur de trahison ? Est-ce que c'est un poison ? Enfin, c'est un spectacle assez tout public, il faut le préciser, et assez passionnant.
C'est au Théâtre de la Ville du 2 au 15 juin, avant une tournée.
En France et à l'étranger.
La saison prochaine. Fabienne ?
Alors moi, je conseille d'aller voir L'Os à moelle. L'Os à moelle, pour ceux qui ne le savent pas, c'était un magazine qu'a créé Pierre Dac de mai 38 à juin 40. Et c'était un hebdomadaire évidemment satirique où il se moquait avec le sens de l'absurde qu'il caractérise des nazis, de la montée au pouvoir d'Hitler. Enfin, c'était totalement politiquement incorrect, avec même des recettes de cuisine, des petites annonces. Enfin, le premier numéro s'était quand même vendu à 400 000 exemplaires, donc dans la France de 1938, ça avait eu un succès considérable. Et le spectacle qu'a mis en scène Anne-Marie Lazzarini aux Artistiques à T20 est tiré d'une recension de ces 700 numéros de L'Os à moelle, et c'est jubilant de loufoquerie, puisque c'est Pierre Dac qui a inventé le mot loufoque, et je le conseille, parce que c'est une leçon d'histoire en même temps. C'est joué divinement par Cédric Collin, Emmanuel Galabru et Michel Ouimet.
À toi, Laurent.
Moi, c'est un spectacle de Florentina Holzinger, qui est une chorégraphe et metteuse en scène autrichienne, qui est une star en Autriche, en Allemagne, génial. En Suisse, sous-évaluée encore chez nous et qui présente toujours des spectacles hors normes, sans limite. Ça s'appelle Ophélia God's Talent, comme par exemple la France a un incroyable talent. D'ailleurs, ça commence comme ça.
Là, c'est
comme
Ophélia.
Une émission de télévision. C'est absolument formidable. Si vous voulez voir un hélicoptère qui éjacule sur scène, je vous prie d'y aller. C'est un spectacle qui travaille autour de la représentation d'Ophélie. Il y a des noyés, des sirènes, des avaleuses de sabres. Toutes les filles sont à poil du début jusqu'à la fin. Il n'y a que des filles sur scène qui mènent le combat. C'est vraiment incroyable, avec des enfants et des filles qui apparaissent sur le plateau, des enfants qui viennent alors même que la représentation pourrait penser qu'elle est interdite aux enfants, comme quoi les filles, quand elles sont sur le plateau, osent vraiment tout et même n'importe quoi, et ça c'est super. Et c'est du 30 juin au 5 juillet à la Villette à Paris.
Et je termine avec La musique d'Alan, un spectacle d'Emmanuel Guibert et du guitariste Philippe Mouratoglou. Alors Alan, c'est Alan Cope, un vétéran de la Seconde Guerre mondiale qui était GI, et Emmanuel Guibert aurait pu être son fils, voire son petit-fils, mais ils sont devenus amis, et cette amitié, qui est au cœur de l'œuvre et dessinée et écrite d'Emmanuel Guibert, a donné naissance à une série de romans graphiques magnifiques, dont La guerre d'Alan, en 3 volumes, publiés aux éditions de l'association. Et comme le titre de ce spectacle l'indique, La musique d'Alan, c'est une autre façon de prolonger l'existence et la mémoire de cet Américain, tombé amoureux de la France à travers les auteurs et les compositeurs qu'il aimait. Ça va de Bob Dylan à Paganini. Et vraiment, ça promet, parce qu'en plus d'écrire et de dessiner, Emmanuel Guibert sait jouer et chanter sur scène. Le gars est capable de vous réciter du Ronsard sur l'air de Bebop et Lula. Je l'ai vu faire. Donc, La musique d'Alan, c'est la vie d'un homme qui a changé celle d'un autre. Le tout raconté en chanson. Emmanuel Guibert et Philippe Mouratoglou seront à la Scala à Paris le 2 juin et à la foire de Brive, la Gaillarde, en novembre, avant que ne soient fixées d'autres dates. Sandrine Blanchard, Fabienne Pascoe, Pierre Lesquelène, Laurent Goumard, merci d'avoir participé à cette tribune. Rendez-vous au Festival d'Avignon pour 2 émissions. Quant aux prochains enregistrements du Masque, ils auront lieu le vendredi 30 mai. Nous parlerons alors de l'actualité littéraire et du cinéma. Guillaume Giraud réalise Le Masque et la Plume et c'était avec Cédric Chatelus, Clément Berman, Tahar Boukhlifa, Leslie Horowitz et Nathan Lavallard aujourd'hui. Ilinka Negulesco coprogramme l'émission, préparée avec l'aide de Nina Malray. Je vous retrouve la semaine prochaine depuis Cannes pour Totémique avec les Dardennes et pour Le Masque avec les critiques afin de commenter le palmarès. Le tout sur France Inter, évidemment.